Sur la page d'accueil, nous avons cette description de notre église. L'EPEM, Église protestante évangélique de Mérignac, est une communauté de croyants qui vit ensemble la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qui la partage aux autres. La question que je pose ce matin est comment pouvons-nous devenir une telle église? Une église qui partage la bonne nouvelle avec les autres. Donc, nous allons considérer quatre principes tirés de l'exemple de Jésus-Christ en Jean chapitre 1, versets 29 à 51. Et j'ai demandé à Larissa de lire ce passage. Si tu peux te mettre debout et lire ce passage, je pensais que vous préférez son accent que le mien. Donc, Jean chapitre 1. Et dans la Bible blanche, c'est quelle page? Ça, c'est quelle?
686.
Comment?
686.
686, dans les Bibles blanches, si vous avez une Bible blanche. Attends, juste. OK, là, c'est ça.
Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent et prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retournant et voya qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu ? » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée et rencontrant Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontrant Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peux-tu sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu ?» lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. »
Ok, amen. Merci, Larissa. En fait, nous avons la grâce ici dans ce passage. Jean, qui n'est pas Jean-Baptiste, mais Jean l'apôtre, était parmi peut-être le plus proche ami de Jésus, Jean-Pierre. Et il nous donne dans ce passage, nous pouvons voir quelques jours dans la vie de Jésus, sa manière de se comporter, sa manière de servir son Père au ciel. Et donc, et je vois dans l'approche de Jésus ce que j'appelle le carré d'évangélisation. Il y a quatre principes que nous pouvons tirer de cet exemple qui peuvent nous aider à devenir une église qui partage fidèlement et efficacement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie, ça c'est dans mon cœur, ton exemple, c'est Jésus. Je veux que ton exemple rentre en nous, qu'il se manifeste en nous, que nous pouvons être une église qui proclame l'évangile comme tu as proclamé quand tu étais sur la terre, Seigneur Jésus. Donc je prie que tu m'aides d'enseigner ce passage et sur ton exemple. Et que ce qui est bon, Seigneur, que ça soit retenu. Ce qui n'est pas bon, Seigneur, que ça soit oublié. Et mais Seigneur, nous avons besoin de toi et ton Esprit Saint pour être une église qui proclame ton évangile. Ô Seigneur Jésus, sois avec nous. Sois avec nous ce matin. Enseigne-nous, parle à nous. Je prie en ton nom. Amen. Vendredi soir, Thierry et moi, nous sommes allés en ville vers 11h. Pour regarder les feux d'artifice, on dit. Et c'était vraiment magnifique, spectaculaire de voir. Mais ce qui m'a touché, c'était le fait que j'étais entouré par des centaines de personnes. Il y a peut-être des milliers de personnes, je ne sais pas combien étaient là. Et je savais dans mon cœur que la plupart de ces personnes ne connaissent pas Jésus-Christ, ne connaissent pas la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Nous avons une responsabilité en tant qu'une église de partager cette nouvelle que nous avons toutes choses sont nouvelles. Mais ce n'est pas pour garder pour nous, c'est pour partager avec les autres. Oh Seigneur, donne-nous la grâce, la puissance, la capacité d'être une église qui proclame l'évangile aux autres. J'espère que ce modèle que nous tirons de l'exemple de Jésus pour nous aider à devenir une telle église. La première chose qui me marque en lisant ce passage que Larissa vient de lire est ce que Jean-Baptiste dit au sujet de Jésus. Donc regardez de nouveau dans votre texte au verset 29 et 36. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? 29 et 36, qu'est-ce qu'il a dit? Okay. Voici l'agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde.
Cette réalité de Jésus sautait aux yeux de Jean-Baptiste tout de suite. Il peut voir cette réalité en lui. Jésus, il pouvait voir que Jésus était l'expression vivante et authentique de la bonne nouvelle. Nous lisons, si vous regardez encore dans ce chapitre, chapitre 1, verset 14, que Jésus, vous êtes là au verset 14? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire?
Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père.
Amen. Jésus menait une vie qui était remplie de la grâce et la vérité. Wow! Quelle vie, hein? Une vie de grâce et vérité. On ne prend pas le temps pour le regarder, mais en Colossiens chapitre 1, verset 19, nous lisons que toute la plénitude de Dieu habitait en Jésus-Christ. Jésus vivait la bonne nouvelle qu'il a annoncée. Son message et son ministère étaient le débordement de qui il était. Regardez maintenant encore au verset 16 dans ce même chapitre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le lire?
Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce.
Ok, oui, c'est ça. Encore?
Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce.
Alors, comme je disais, son message et son ministère était le débordement de qui il était. Donc, nous avons reçu de lui. Ce qui était en lui, nous avons reçu. Et c'est vrai pour nous aussi, en tant qu'une église, des chrétiens. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Nous devons vivre la bonne nouvelle si nous voulons partager la bonne nouvelle. Voilà le premier principe, le premier coin dans ce carré. Il faut vivre l'évangile. Il faut vivre dans la bonne nouvelle si nous voulons partager la bonne nouvelle. Alors, sais-tu ce matin que Jésus t'aime? Est-ce que ça s'est entré là? Jésus t'aime. Sais-tu qu'il prend soin de toi? Ça, c'est une bonne nouvelle d'avoir quelqu'un qui va prendre soin de moi. Sais-tu qu'il est avec toi en tout moment? J'ai correspondu, est-ce que ça se dit en français? Avec quelqu'un cette semaine qui est vraiment découragé dans sa foi. Et j'ai cité Psaume 139, là où il nous dit que Dieu est partout, il est avec nous quand tout va bien, mais il aussi, il est avec nous quand ça fait nuit dans nos vies. Il s'occupe de nous. Sais-tu qu'il souffre quand tu souffres? Ce qui touche ton cœur, touche son cœur. Sais-tu que son cœur est brisé quand ton cœur est brisé? Alors, reçois son amour. Vis dans l'évangile, vis dans la bonne nouvelle. Reçois son aide, ses conseils, sa direction. As-tu besoin de sa direction? Reçois sa correction aussi. Reçois sa protection et son encouragement. Alors, vis dans la réalité de qui il est et de quoi il t'offre. Quand tu le fais, ta vie va déborder de la bonne nouvelle. Et tu partageras naturellement avec les autres ce que tu vis. Vous comprenez le principe? Si je vis dans la bonne nouvelle, ça va déborder de ma vie. Et je vais le partager avec les autres. Je vais donner une illustration de ma vie. Ça fait plusieurs années maintenant. Mais la dernière fois que nous étions aux États-Unis pour un an, Thierry et moi, nous étions dans la maison. Il fallait meubler la maison. Donc, nous n'avions pas beaucoup d'argent. Donc, nous sommes allés un peu partout, le Bon Coin, les magasins de troc pour meubler la maison. Et j'avoue que certains meubles n'étaient pas trop propres. Donc, je suis allé à un magasin qui s'appelle Bed Bath & Beyond. Ils vendent les choses de maison et tout. Donc, j'étais là et j'ai acheté, j'ai noté dans mes notes, un nettoyeur à vapeur. Vous comprenez? Ils utilisent la vapeur chaude pour nettoyer les choses. Donc, c'est un appareil rempli de l'eau et tout. Donc, j'étais en train de faire tous les meubles, toutes les choses que nous avons achetées. Et j'avais le salon, canapé de salon. Et j'ai fait tout. Et après, j'ai dit, mais aussi en dessous. Donc, j'ai essayé de mettre mon épaule pour pousser un peu d'un côté le canapé. Et j'étais en train de faire comme ça. Et le canapé est tombé. J'avais l'appareil pendant 2 jours. Le canapé est tombé et cassé l'appareil. J'ai dit, oh zut, ça coûte cher. Et donc, j'ai regardé, j'ai dit, mais ce n'est pas trop cassé. Peut-être je peux juste remplacer la pièce qui était cassée. Donc, je suis retourné au magasin pour dire qu'en fait, j'ai acheté cet appareil il y a 2 jours. Et j'étais en train, j'ai cassé, quelque chose est tombé. Et je n'ai pas dit que j'avais le canapé comme ça. Il est tombé, il a cassé le truc. Est-ce que je peux acheter juste la pièce pour le remplacer? Elle m'a dit non, désolé, on ne vend pas les pièces. Mais elle a dit, je te donne un nouveau appareil. Et j'ai dit, non, tu n'as pas compris, ce n'était pas ta faute, c'était ma faute, c'est moi qui a cassé le... Donc, non, elle a dit, pas de problème, on va prendre ton appareil, on va te donner un nouveau appareil. Je vous dis, j'étais fan de Bed Bath & Beyond. Tout le monde avec qui j'ai parlé, j'ai dit, bon, mais il faut aller à Bed Bath & Beyond pour acheter les choses parce qu'ils sont... Vous voyez, J'ai expérimenté la bonne nouvelle, la grâce, et elle a débordé. Elle a débordé de ma vie. Et ça, c'est ce qui est naturel. Quand nous expérimentons quelque chose qui est bon, la réaction naturelle est de la partager. Ce n'est pas quelque chose que nous devons forcer, c'est là. C'est la même chose en Christ. Quand nous avons Christ en nous, quand nous vivons dans sa bonne nouvelle, ça commence à déborder dans les autres. Et je pense que c'est pourquoi les nouveaux convertis sont plus forts parfois dans l'évangélisation que ceux qui sont déjà depuis des années en Christ. Parce que l'expérience, et ça déborde facilement comme ça. Jésus a dit en Luc chapitre 6, verset 45, que notre bouche exprime ce dont notre cœur est plein. Ça, c'est un principe de Jésus. Notre bouche exprime ce dont notre cœur est plein. Le monde, écoutez-moi bien, le monde non-croyant qui nous entoure a besoin de voir que Jésus et tout ce qu'il nous offre est réel. Ils sont déçus et méfiants de tout ce qui concerne la religion. Ça fait deux ans maintenant, j'étais au kiné, j'avais un problème de dos, il travaille sur moi pendant 6 séances. Donc on a eu le temps pour parler et il savait que j'étais pasteur, mais il m'a dit que moi je déteste la religion. Et il était déçu par l'institution, par les choses qu'il a vues, par les choses qu'il entend sur les infos. Il était déçu. Le monde a besoin de voir que Jésus est réel. Notre plus forte méthode d'évangélisation est d'abord de vivre dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la première étape pour devenir une église qui partage la bonne nouvelle de Jésus avec les autres. Mais la deuxième étape, c'est maintenant ici. Et je ne suis pas sûr de verbe. Je ne savais pas si... Bon, vous pouvez me dire après, si vous trouvez un autre verbe qui est mieux, je vais le mettre. J'ai dit « connecter ». Regardez de nouveau dans notre texte, si vous avez toujours vos Bibles, chapitre 1. Regardez encore versets 29, 36 et 43. Est-ce qu'il y a trois personnes qui peuvent lire? Quelqu'un 29, une autre personne 36 et une autre personne 43.
Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et il dit, voici l'agneau, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
OK. Quelqu'un d'autre, le 36.
Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu.
OK. Et le troisième 43.
Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et il dit, suis-moi.
OK, merci. Bon, dans ces passages que nous venons de lire, il y a trois verbes qui attirent mon attention. Au verset 29, il dit, il vit Jésus, et les versions peuvent avoir une traduction différente, donc peut-être le verbe n'est pas exactement le même, mais vous allez comprendre. Verset 29, Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher de lui. S'approcher. 36, Jean-Baptiste, il vit Jésus, quoi? Passer. C'est le deuxième verbe. Et verset 43, Jésus décida de se rendre en Galilée. S'approcher, passer, se rendre. Jésus ne se cachait pas à la maison ou dans le temple. Non, il s'est déplacé pour y aller où les autres se trouvaient. Je ne sais pas si j'ai formulé ça dans le bon français, mais vous comprenez ce que je voulais dire? Jésus ne se cachait pas à la maison, dans le temple. Il s'est déplacé pour y aller où les autres se trouvaient. En fait, cette observation résume la mission de Jésus. C'est l'histoire de son incarnation. C'est-à-dire la doctrine que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Ça, c'est dans le verset 14 que nous allons lire tout à l'heure. Jésus ne se cachait pas au ciel, saint sauf, hors de notre portée. Il n'a pas regardé de haut et dit « oh pitié, ces pauvres et misérables personnes, regarde-les. » Non, il a quitté la boule du ciel pour vivre parmi nous. Encore, je lis pour vous, verset 14. Il dit, Jésus s'est fait homme, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, vous pouvez voir la même réalité en Philippiens chapitre 2, versets 6 à 9. Il dit la même chose encore. Il est quitté du ciel, il peut être là, tout à l'aise, éloigné de toutes nos souffrances. Mais non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a quitté le ciel pour entrer dans notre vie, pour partager notre vie. Jésus est né dans une étable. Il a grandi dans une famille pauvre. Il a vécu les choses que nous vivons. Il peut nous comprendre. Je ne prends pas le temps, mais Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, il parle qu'il est le prêtre, le grand prêtre qui nous comprend. Il comprend tout ce qui touche nos vies. Luc chapitre 19, verset 10, nous dit que Jésus est venu pour nous chercher et pour nous sauver. Il a connecté avec nous. Si nous voulons devenir une église qui partage la bonne nouvelle aux autres, nous devons suivre l'exemple de Jésus. C'est une phrase que nous avons discutée, je pense, deux fois. Nous devons quitter la bulle de l'église pour aller tisser des amitiés avec les non-croyants. Pour moi, ce que j'ai fait dans ma vie, le lundi soir, je vais dans un pub, je joue de la musique irlandaise avec des autres. Aussi, je suis bénévole dans association qui répare les vélos et c'est quelque chose comme ça. Thierry, elle fait d'autres choses. Elle fait dans une chorale. Et je sais qu'il y a d'autres de vous. Mais il faut sortir pour moi, c'est essentiel. Parce que si je suis avec vous tout le temps, est-ce que je vais... Comment? Mais vous travaillez quand même dans les lieux avec les non-chrétiennes, moi, chrétiennes. Donc, mais pour moi, c'est essentiel pour nous tous de sortir de cette boule pour tisser des amitiés avec les non-croyants. Nous devons, et c'est ce que j'ai ici, nous devons bâtir des ponts de confiance qui peuvent soutenir le poids de la vérité de l'Évangile. Je m'explique. L'Évangile, ici, ça contient des poids, des vérités difficiles à accepter pour les non-croyants. Rappelez de ta vie avant Jésus. Il est les vérités que l'Évangile proclame qui ne sont pas faciles à accepter. Par exemple, la vérité qu'il y a un Dieu créateur qui nous aime n'est pas tout de suite évident pour quelqu'un qui est athée. Hein? Tu crois vraiment qu'il y a un Dieu? Ça, c'est une vérité qui pèse pour quelqu'un qui ne l'accepte pas la première fois. La vérité que notre péché condamne, que nous condamne, à une existence séparée de Dieu et son amour. Le jugement de Dieu? Ah, mais j'ai pensé que Dieu était un Dieu d'amour. Comment ça? C'est une vérité qui est vraiment importante si nous voulons entrer dans la vie de Christ d'abord. Il y a une mauvaise nouvelle avant qu'on puisse avoir la bonne nouvelle. Et cette nouvelle que je suis perdu, sans Jésus, il n'y a pas d'espérance. Ça pèse. Donc si la première chose, s'il est un étranger, je dis, mais toi, pécheur, toi. Il faut bâtir un pont de confiance qui peut soutenir le poids de cette vérité. La vérité qu'il y a une vie abondante, éternelle, qui nous attend en Jésus-Christ. La vérité que nous devons nous repentir et mettre notre confiance en Jésus pour être sauvés. Toutes ces vérités. Pour ceux qui ne croient pas, ces vérités ne sont pas faciles à accepter. Il existe un messager en qui ils peuvent avoir confiance. Parfois, Dieu a déjà préparé des gens à recevoir immédiatement. Merci. C'est vérité. Donc, ça peut arriver que l'étranger Sam, je peux dire que Dieu, tes péchés te séparent de Dieu. Et il va dire, ah oui, je sais, il est prêt. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les gens ne sont pas toujours là. Il faut discerner. Sinon, s'ils n'ont pas là, nous devons construire des ponts de confiance pour les rapprocher un peu plus. Par exemple, si la personne ne croit pas dans l'existence de Dieu, mais il sait que tu le crois, peut-être il se poserait la question, voici une personne qui me semble raisonnable, bon sens, mais il croit en Dieu. Comment ça? Pourquoi? Le Saint-Esprit peut se servir de cette pointe d'interrogation dans sa pensée pour la conduire un peu plus proche à Dieu. Peut-être notre devoir, c'est juste pour l'avancer un pas. Et quelqu'un d'autre va l'avancer un autre pas. Mais Dieu va nous utiliser. Quand cette personne observe ta vie en Christ, ça va provoquer des questions. Des questions que j'appelle les questions rédemptrices. Les questions qui le causent de réfléchir profondément dans la vie, sens de la vie et le destin. Donc, si nous voulons devenir une église qui partage la bonne nouvelle avec les autres, nous devons sortir de la boue de l'église et bâtir des ponts de confiance comme nous avons ici. Il y a plein de moyens pour le faire. D'abord, votre travail. Mais adhérer à une association, un club de sport, un chorale, inviter quelqu'un pour sortir voir un spectacle, aller ensemble quelque part, manger ensemble, faire un projet ensemble, prendre un café, juste développer, comme vous connaissez, vous savez comment le faire, développer une amitié pour être présent. Je ne peux pas dire que ça, toutes les choses que nous faisons vont porter une grande fruit, mais nous sommes la lumière de Jésus et au moins on peut dire que cette personne, même s'il ne répond pas comme peut-être le désir de notre cœur, au moins ils sont aimés par Dieu et par les autres. Et ça, 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour ne ne faillit jamais. Amen. Bon, on continue au troisième point maintenant, invité. Au verset 37, maintenant si vous êtes encore que dans notre chapitre, au verset 37 à 39, nous voyons un troisième principe dans l'exemple de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ces versets 37 à 39?
Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et les suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure.
Ok, merci. En fait, dans cet exemple, à un certain moment, André et l'autre homme qui n'est pas nommé étaient curieux. Ils ont voulu savoir plus en regardant sa vie, être connectés de certaines manières avec Jésus. Ils étaient curieux, ils ont voulu savoir plus. Donc, Jésus les a invités à venir et voir pour qu'ils puissent le connaître. Nous voyons la même chose au verset 43, quand Jésus a rencontré Philippe. Jésus, voyant que Philippe était prêt, il a lancé l'invitation de devenir son disciple. Et j'ai Il y avait encore une note, c'était verset, ce n'était pas Jésus cette fois, mais c'était Philippe qui a lancé le même appel, qui a copié le modèle de Jésus et lancé l'appel à Nathanaël. Donc, l'invitation de venez voir. Dans tous les deux cas, André et Philippe, nous savons que ces hommes étaient touchés quand Jésus a lancé cet appel, invité. Ces hommes ont été touchés et transformés car ils ont cru que Jésus était le Messie. Ils ont décidé de suivre Jésus en tant que disciple et d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. André à Pierre, Philippe à Nathanaël. Nous voyons ça au verset 41. André, il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Pour Philippe, c'était 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Notre prière ardente est de présenter Jésus aux gens qui ne le connaissent pas. Nous voulons les inviter à connaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, nous prions pour les portes ouvertes. Et ça, c'est important. Chaque jour, Seigneur, donne-moi une porte ouverte dans la vie de cette personne ou de l'autre. Nous voulons être prêts de partager le message de l'Évangile quand la porte s'ouvre pour nous. Mais comprenez bien que ce n'est pas quelque chose que nous forçons. Et je veux être clair. Ce n'est pas quelque chose que nous forçons. Dieu ne force personne. Chacun est libre. Notre devoir est d'aimer. Toujours la personne. Ça, c'est notre devoir. Aimer la personne. Et aussi de la présenter à Jésus. Comme nous pouvons. C'est le devoir. Ça, c'est notre devoir. Aimer et présenter cette personne à Jésus. C'est le devoir du Saint-Esprit de travailler dans nos cœurs. Ce n'est pas notre devoir. Ça, c'est le devoir du Saint-Esprit. Et c'est le devoir de cette personne de croire non. Chacun est libre. Nous devons respecter la dignité de tous et mettre notre confiance en Dieu par la prière. Donc, voici quelques suggestions. Si nous voulons être une église qui invite les autres, j'ai fait le brainstorming des idées. Vous pouvez inviter la personne à assister à un cours comme Alpha et Passwell pour explorer la foi chrétienne. De temps en temps, nous faisons ces cours pour les personnes qui cherchent Dieu. Donc, si vous avez un ami, s'il y a 5 personnes dans l'église qui disent que j'ai quelqu'un que je veux, nous allons organiser, vous me dites. Et si nous avons assez, on va organiser un cours, c'est les dîners discussions pour explorer la foi chrétienne. Vous pouvez inviter la personne à assister à un événement d'évangélisation comme un concert chrétien ou un film. Ça, c'est comment je suis venu à Jésus. J'ai rencontré quelqu'un qui vit l'évangile. J'ai passé du temps avec eux. Après, il m'a invité de voir un film chrétien. Et c'est là que l'évangile était présenté. Et ce soir, c'était cette soirée, c'était le 19 mai 1974 que j'ai donné ma vie à Jésus. Ouais. Comment ça marche? Vous pouvez inviter la personne à regarder un app ou un site comme l'évangile.net ou connaître Dieu. C'est sur notre site. Si vous regardez sur notre site, sur la rubrique de ressources, vous allez trouver ces apps, ces sites, d'accord? Et ça peut vous aider, ça c'est bien pour regarder et utiliser. Vous pouvez inviter la personne à assister à un culte spécial, comme le fête de Pâques, que nous avons souvent, ou le baptême la semaine prochaine, ou... Peut-être que c'est pas mal comme une idée que de temps en temps, nous planifions un culte spécial pour inviter nos amis et pour qu'ils puissent écouter l'Évangile. Vous pouvez demander à la personne si vous pouvez partager avec elle votre témoignage. Il y a quelque chose qui a changé ma vie. Est-ce que je peux peut-être partager ça avec, cette histoire avec toi? Ou une autre chose, vous pouvez demander à la personne si vous pouvez partager avec elle quatre principes du Nouveau Testament qui a changé sa vie. Voici un petit, on dit astuce, idée peut-être, on dit idée. Dites à la personne, en fait, un jour, je veux partager avec toi quatre principes du Nouveau Testament qui a changé ma vie. Tu laisses tomber. Un mois après, tu es avec cette personne. Un jour, je veux partager avec toi quatre principes du Nouveau Testament qui a changé ma vie. Tu laisses tomber. Le mois prochain, un jour, il va dire, arrête-toi. Pourquoi partage avec moi ces principes que vous voulez partager? Ouais. Donc, mais partagez avec eux quatre principes. Et si vous avez besoin de ces quatre principes, je vous explique après dans un autre temps. Mais on n'a pas le temps ce matin. Vous voyez, bon, le dernier principe à tirer de l'exemple de Jésus que je veux considérer ce matin, c'est engager. Tous les hommes qui ont rencontré Jésus dans ce passage, Jean chapitre 1, se sont engagés pour suivre Jésus comme disciples. André, Simon-Pierre, Philippe, Nathanaël, et je pense que l'autre homme était Jean lui-même, Jean l'apôtre. Grâce à l'engagement de ces hommes, nous sommes là aujourd'hui, je vous dis. S'ils n'ont pas suivi ce que Jésus a dit, je ne sais pas si nous serons là aujourd'hui, grâce à leur témoignage, leur engagement de suivre en tant que disciples, nous sommes là. Le carré d'évangélisation n'est pas complet si les personnes que nous invitons à connaître Jésus ne suivent pas Jésus comme disciples. Donc, ça commence ici, ça termine ici. Mais si ces personnes qui acceptent Jésus ne s'engagent pas, ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas connaître, ils ne peuvent pas... Donc c'est complété. Si nous devenons un disciple, notre but n'est pas que quelqu'un fait une profession de foi juste comme un billet pour aller au ciel ou comme une police d'assurance pour échapper de l'enfer. Ça, ce n'est pas notre but. Dieu nous appelle à lui pour vivre en relation avec lui. Pour nous confier à lui, pour obéir à lui, pour apprendre de Jésus comment vivre comme ses enfants dans la famille de Dieu. Nous voulons voir les personnes s'engager dans la vie de l'Église où elles peuvent servir et grandir dans la vie en Christ. Et quand cela arrive, ces personnes vont vivre l'Évangile et se lanceront dans la première étape encore de carré d'évangélisation. Et nous serons une église qui partage la bonne nouvelle aux autres. Donc, j'ai encore juste quelques idées. Il y a des moyens pour vous aider à vous engager à Christ et à la vie de son église. Vous pouvez assister à des cours de suivi. Après que quelqu'un vient à Christ, nous avons un cours de suivi de 6 leçons que nous faisons avec les gens pour les aider à débuter dans leur foi, pour les préparer pour le baptême. Vous pouvez pratiquer les disciplines spirituelles. Il y a certaines choses que vous-même, comme Wyman a prêché il y a quelques semaines, en Jean 14, il faut demeurer dans la parole. C'est là qu'est la vie de Christ en nous. Vous pouvez assister les réunions de mardi soir. Vous pouvez joindre un GDC encore. Regardez notre site d'église dans les activités et événements. Il y a une rubrique qui s'appelle GDC. Et il y a plusieurs groupes comme ça dans l'église. Et si vous voulez, vous pouvez commencer avec une ou deux autres personnes pour avoir un GDC. Vous pouvez me parler, je peux l'expliquer. C'est quelque chose simple que vous pouvez faire. Vous pouvez servir dans l'église. On a encore besoin des personnes pour certaines choses dans l'église. Donc, parle avec moi. Vous pouvez joindre une cellule de maison. Ça, c'est dans le futur proche, je vous assure. On va commencer dans le futur proche. des groupes de maison, et c'est ma prière que tout le monde participe dans un groupe de maison. Pourquoi? Pour une meilleure formation dans la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour un meilleur suivi des âmes. On a besoin d'un sens de communauté, pour louer Dieu, pour servir et aussi pour la mission ensemble. Donc, ça va commencer. Je suis en train de prier et chercher la volonté de Dieu, exactement comment le faire, mais ça va commencer. Et donc, je prie que vous participez dans cette idée. Bon, pour résumer, le carré d'évangélisation, je vais imprimer des cartes pour que vous pouvez les avoir, mettre dans vos Bibles pour nous aider d'être une telle église. Vivre l'évangile, tisser des amitiés, connecter ou rapprocher des autres, juste pour développer les amitiés et bâtir les ponts de confiance qui peuvent soutenir le poids de la vérité de l'évangile. Invitez-les à certains événements ou certains trucs où ils peuvent connaître Jésus-Christ et soient engagés dans la vie de l'Église et pour grandir dans votre vie avec Christ. Bon, je m'arrête là, je vais prier et que demander que le Seigneur nous aide d'être une telle Église. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Aide-nous à grandir dans cette vie. De partager la bonne nouvelle aux autres. Je prie en ton nom. Amen.